Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Durant cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, une amie des plantules en devenir prend racine sur les ondes. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Salut tout le monde, donc moi c'est Pauline Caron, je suis chargée de mission agroforesterie chez Earthworm. Donc Earthworm c'est une ONG internationale, donc je travaille là-bas depuis un peu plus de 2 ans et j'accompagne du coup les agriculteurs à replanter des arbres, des arbustes donc dans les champs, soit en bordure de champs ou dans les parcelles, donc c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie intraparcellaire et ouais, je fais ça depuis 2 ans. De base je voulais être vétérinaire. Donc docteur des animaux et finalement j'ai fait un peu une formation, on peut dire docteur des plantes. Donc j'ai fait un bac scientifique. Par la suite, bon, pour être véto, j'ai fait ce qu'on appelle une prépa BCPST. Donc c'est une prépa bio pour pouvoir passer après le concours et passer le cap pour être véto. Mais au bout d'un an, en bossant à fond, les études ne me correspondaient pas. J'avais bossé beaucoup, je n'enregistrais pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir réussir la deuxième année et puis le concours véto. Donc au début j'avais vu un peu ça comme un échec, puis avec les années je me suis dit ça m'a permis de rebondir et faire vraiment quelque chose que j'aime bien. Pendant cette année de prépa, il y avait des étudiants des écoles plus d'Angers, des écoles de l'Ouest de la France qui présentaient ce qu'ils faisaient. Et c'était beaucoup autour de l'horticulture, de l'agriculture. Je me dis ah ouais, c'est pas mal en fait, le monde agricole, il y a de quoi faire en fait. Ce sera tout le temps en constante évolution avec le changement climatique. Il faut bien nourrir le monde, donc il y aura toujours quelque chose à faire. Donc je me suis interrogée, qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine-là. Et je suis partie faire un BTS production végétale, donc à Tilloy-les-Mauflaines, à côté d'Arras. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et c'était trop bien, je viens pas du tout du milieu agricole, donc j'avais vraiment cette ouverture d'esprit de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans l'agriculture. Donc dans mes stages, j'ai fait plein de choses. J'ai fait un stage dans une ferme en agriculture biologique, dans une ferme en agriculture conventionnelle. Donc quand on dit conventionnelle, c'est on va pouvoir utiliser des produits phyto. Ça peut être de manière raisonnée, donc c'est-à-dire on va mettre des produits phyto s'il y a besoin sur ces cultures. Donc j'étais sur ce genre de ferme-là. Et j'ai travaillé aussi pour une firme de produits phyto. En fait, moi, mon objectif, c'était vraiment de toucher à tout pour me faire mon propre avis sur ce domaine-là. Et à la fin de mon BTS, je me sentais pas prête en fait de conseiller des agriculteurs. J'étais pas assez solide mentalement, je sentais que j'avais pas encore assez de connaissances sur le monde agricole. Donc je suis partie faire un diplôme d'ingénieur, je suis partie à Angers. Donc moi je suis originaire du nord de la France et je suis totalement partie vivre ailleurs et c'était hyper nécessaire pour ma croissance personnelle. J'ai découvert plein de choses. Je suis partie en stage aux Pays-Bas, j'ai fait l'agriculture biodynamique. Pareil, toujours dans l'objectif de découvrir d'autres styles d'agriculture. J'ai beaucoup grandi pendant ce stage-là parce que j'étais avec des personnes très ouvertes d'esprit. J'ai fait un stage sur la sélection variétale de quinoa. Après, j'ai travaillé en arboriculture fruitière sur des techniques justement pour ne pas utiliser de produits phyto, parce que les cultures fruitières sont quand même assez dépendantes des produits phyto. Et là, il fallait trouver des techniques qui n'en utilisaient pas. Donc j'ai travaillé sur des pièges englués pour justement limiter la propagation d'insectes. Donc j'ai fait ça et par la suite, j'étais diplômée ingénieur agronome. Soit je pouvais déjà intégrer Earthworm, mais en tant que technicienne du vivant. Donc c'était de faire des échantillons de sol, faire des analyses, conseiller les agriculteurs par rapport à un programme qui s'appelle Sol Vivant pour les accompagner vers une agriculture dite régénératrice. Ou je pouvais travailler à la DRAF en tant qu'inspectrice en export de produits végétaux. Donc le premier emploi chez Earthworm, je savais que j'allais apprendre des choses parce qu'on échange avec les agriculteurs et c'est toujours une richesse d'échanger avec eux. Finalement, il y avait cette histoire de faire des enquêtes auprès des agriculteurs, des échantillons de sol, j'en avais fait un petit peu pendant mes études et je voulais vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Je suis assez curieuse, j'aime bien toucher à des nouvelles choses. Je me suis dit, je vais partir vers la DRAF. C'était un petit CDD de 4 mois qui s'est poussé jusque 6 mois pour apprendre des choses. Donc j'ai appris plein de choses si on veut exporter du bois en Chine, il faut un certain certificat, il y a un certain suivi, des traitements thermiques, etc. Enfin, je savais que j'allais pas faire ma carrière là-bas parce que c'était pas mal du bureau et je suis quelqu'un qui a besoin d'aller dehors au contact des gens et sur le terrain. Et chez Earthworm, il y avait cette offre de chargé de mission agroforesterie. Et, moi, j'ai foncé, j'ai réussi à intégrer Earthworm. Et ben, depuis, c'est du plaisir de travailler avec les agriculteurs, mais aussi avec tous les acteurs qui sont autour de l'agroforesterie pour les accompagner dans la plantation d'arbres et d'arbustes. J'adore les oiseaux. Une passion pour les oiseaux. Et pour la photo, et en fait je lis un peu les deux, donc il y a des moments où je vais prendre l'appareil photo, à côté de chez moi il y a un étang où il y a du héron, il y a de la grêbe huppée, il y a un martin pêcheur, mais j'arrive pas à l'avoir en photo celui-là parce que ça reste une zone très ouverte, donc il file assez vite, mais en fait je peux me perdre pendant des heures. Et ça, je l'ai découvert à Angers. À un moment donné, j'ai acheté un appareil photo d'occasion et j'ai compris que c'était une passion parce que j'étais dans ma bulle. Et en fait, je me perdais pendant des heures à courir après un écureuil pour essayer de le prendre en photo. Et j'allie un peu cette passion des oiseaux, des animaux et la photo. Et je me perds et ça fait du bien. Donc ça, c'est une de mes premières passions. Et la deuxième, c'est la moto. Je fais de la moto et pareil, bah, tu vois, je la lis avec la photo. Donc je prends la bécane pour aller sur un spot où je sais qu'il y a du martin pêcheur ou des oiseaux. Donc je pose la bécane, je fais ma mini rando, puis je me pose avec l'appareil photo, puis je repars tranquillement. Donc ça, et puis le sport et les plantes, bien sûr. J'ai plein de plantes. Je suis addict, une plante addict.
Dis-nous. Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en trois mots? Et un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Complexe, incroyable, surprenant. Il y a une complexité du vivant, c'est pas forcément un terme, quand on dit complexe, souvent on trouve ce terme négatif, alors que pas forcément, en fait, il y a des interactions entre tous les êtres vivants qui sont complexes et justement qui sont incroyables. Il y a des symbioses qui se font, il y a un équilibre aussi naturel qui se fait. Donc dans toute cette complexité, il y a quelque chose d'incroyable qui fait que il y a une bonne bascule, une bonne balance entre tous les êtres vivants. Quand on creuse un peu pour comprendre le vivant, on est surpris parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pensait pas. On prend par exemple les arbres, les études qu'il y a autour des arbres. Il y a des choses qui sont surprenantes, hein. Enfin, il y a même des choses qu'on ne connaît pas actuellement. Sur l'interaction racinaire, entre arbre et culture, on sait qu'il se passe des choses, mais avec les petits champignons du sol, la mycorhisation, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne connaît pas encore et qui sont surprenantes. Justement, si on prend le sol, c'est hyper complexe le sol, et justement c'est incroyable parce qu'il se passe plein de choses grâce au vivant, justement, plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est beau. Dans le vivant, il y a encore une part d'inconnu, qu'on finira peut-être un jour par découvrir ou pas. Pour une couleur, je dirais le vert. Un vert forêt pour le vivant. Tout tourne autour du vert. Donc la verdure, que ce soit les arbres, les plantes, l'herbe, tout tourne autour de ça, le vivant. Que ce soit nous les êtres humains, la grande faune ou la petite faune. S'il n'y avait pas toute cette verdure-là, il n'y aurait pas de vivant en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Pour une odeur... quelque chose de floral et de frais, parce que je pense à l'extérieur, tu vois, dès que tu sors, moi je me sens vivant quand je sens, tu vois, c'est le printemps, t'es là, tu vas te balader, t'as toutes ces odeurs de fleurs, de frais, de nature. Et pour un goût, quelque chose de doux. Le vivant, ça peut pas être quelque chose d'amer, c'est quelque chose de doux, de sucré, enfin, texture, un peu mousseux. Là, la première image qui me vient en tête, c'est de la mousse quand tu te balades en forêt, moi j'ai toujours le réflexe de toucher. Donc un peu le petit lichen là, qu'on peut trouver quand on se balade dans les bois. Un son, quelque chose de craquant. Quand on marche sur des feuilles mortes aussi, pareil, je sais pas, on va dans la nature, qu'on marche sur du sol, ça croustille un peu, hein, le bruit du sol sous les pas.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets?
Le vivant, je travaille tous les jours avec, déjà l'humain. Dans mon job, en fait, je coordonne tous les acteurs autour de l'agroforesterie, donc soit des coopératives négoces où on a le pool d'agriculteurs qui seraient intéressés pour un projet d'implantation de haies ou d'agroforesterie avec des financeurs privés, des financeurs publics, tout ce qui va être les pépinières, les entreprises qui vont venir planter chez les agriculteurs. Il y a des agriculteurs, donc déjà je travaille avec le vivant qui est l'humain et on travaille avec le vivant qui est les arbres, mais aussi le sol. Et on en apprend tous les jours. Il y a des choses actuellement du vivant où on se questionne un tout petit peu et on met en place un peu des études pour comprendre tout ça. Donc le vivant, c'est mon quotidien.
Et d'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Il peut essayer de faire des ponts, des interactions. Il y a des choses, la nature le fait très bien toute seule, mais l'humain peut apporter un petit plus. Quand on a cette conscience, cette super conscience, et cette curiosité humaine, on cherche à comprendre certaines choses. Donc l'humain peut apporter des bonnes choses au vivant. Enfin, là par exemple, on se rend compte qu'on dérègle des choses dans le vivant de manière générale. Les réchauffements climatiques, c'est un impact de l'être humain, mais en fait on cherche aussi à le réparer. Donc dans ce qu'on peut faire de négatif, on essaye de faire aussi des choses positives.
On va passer à la question d'actualité. Nous y avons toutes et tous assisté il y a quelques semaines, le débourrement. Phénomène de montée de sève des végétaux conduisant à l'apparition de feuilles et ou de fleurs, a commencé plus tôt cette année. Plusieurs études ont mis ainsi en avant que les températures augmentant au printemps, de nombreux phénomènes biologiques se produisent plus tôt, tels que la reproduction des oiseaux ou le début de la floraison et la sortie des feuilles des arbres. Publiée en 2022, une étude suisse de WSL relate les observations réalisées sur le débourrement dans trois pays différents, la Chine, la Suisse et l'Angleterre, depuis plusieurs siècles. Oui, nos proches ancêtres scientifiques fascinés par ce phénomène avaient enregistré dès les années 800 la date de débourrement de leurs arbres favoris. Ainsi, la série de loin la plus longue est celle de la floraison des cerisiers à Kyoto, au Japon. Un événement culturel important dont le début est enregistré depuis 812 après Jésus-Christ en Europe. Le record est détenu par la famille Marsham, qui a enregistré la sortie des feuilles de plusieurs essences feuillues dans le sud-est de la Grande-Bretagne de 1736 à 1958. Non loin de là, une citoyenne remarquable, Jean Combe, observe et enregistre l'apparition des feuilles des chênes et d'autres espèces d'arbres depuis 1950, permettant d'allonger la série de la famille Marsham. La contribution des citoyens à ces longues séries est inestimable, déclare l'auteur principal Yann Vitas, de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. Les cinq séries chronologiques les plus longues au monde concordent toutes de manière frappante avec l'accélération du réchauffement climatique à partir des années 1950, qui s'est à nouveau intensifié dans les années 1980. Or, ce débourrement précoce a un prix élevé pour certaines espèces. Lorsque le débourrement a lieu, l'étalement des feuilles commence et la circulation de la sève redémarre. Et comme les bourgeons protègent les ébauches foliaires du froid, si l'hiver n'a pas dit son dernier mot, les pièces florales et les jeunes pousses peuvent geler. La plante doit mobiliser des cellules souches constitutives du méristème pour remplacer les parties touchées par le froid. Si ces perturbations se répètent, elles vont induire une consommation énergétique qui peut épuiser le spécimen. Les effets du réchauffement climatique concernent aussi la production fruitière puisque les débourrements précoces restent à la merci d'un coup de gel jusqu'en mai, avec les saintes glaces. À cela, on ajoute les sécheresses estivales. Pour des individus fragilisés, il s'agit alors de la fin du voyage. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
C'est une problématique, on a des années qui ne se ressemblent pas. Avant, dans le domaine agricole, par exemple, quand on faisait une moyenne du rendement, on faisait une moyenne sur 5 ans et on enlevait la meilleure année et la moins bonne. Maintenant, si on veut faire une moyenne sur 5 ans, c'est un peu plus complexe parce que les années ne se ressemblent pas du tout. Et cette année est un peu particulière. Donc, il y a 2 ans de suite, on avait des hivers très pluvieux et un printemps très pluvieux et assez froid, puis on avait le printemps n'avait pas démarré aussitôt, et là cette année c'est pas le cas, le printemps a démarré hyper tôt. Là, on peut voir en l'espace de 15 jours, une semaine, les arbres, ils ont débourré hyper vite. Et c'est problématique. Ils risquent d'avoir encore des gelées en avril. Ils risquent d'avoir encore des gelées au mois de mai avec les saintes glaces. Avant, on avait un peu moins ce problème. Parce que justement, le printemps venait en douceur et les gelées étaient un tout petit peu moins problématiques. Actuellement, on est en train de réfléchir comment, lors de ces événements climatiques, éviter d'avoir des pertes. Par exemple, pour les vignes, c'est un grand problème, ça va impacter la production. Pour l'arboriculture fruitière, c'est la même chose. L'humain réfléchit justement à comment apporter des solutions. Soit on va travailler avec des variétés qui vont être plutôt tardives, c'est-à-dire qui vont débourrer plus tard en saison. Comme ça, on va limiter justement le débourrement des feuilles et l'impact du gel. Technique de mettre des bougies, par exemple, dans les vergers, les viticultures, pour justement réchauffer un peu l'air et pour éviter les gelées. Là, par exemple, dans la haie, l'agroforesterie, on n'a pas forcément de solution. Mais l'agroforesterie est une solution pour les cultures. La haie, quand elle va prendre de l'ampleur et du coup être plus haute, elle va avoir un effet brisant. Quand on va avoir des haies pluristrates, c'est-à-dire qu'on va avoir des arbres qui vont monter jusqu'à 10 mètres, puis on va avoir des arbres un peu plus petits, on va commencer à faire une barrière au vent, mais on va aussi créer un microclimat. Donc sur des cultures, ça peut être intéressant justement de limiter l'impact des gelées. Et la haie, quelque chose de magnifique, c'est si vous regardez des haies un peu plus anciennes, par exemple à des épisodes de neige, on voit qu'il y a un microclimat parce que la neige va mettre plus de temps à fondre, par exemple, en bordure de la haie plutôt qu'au milieu de la parcelle. Et l'été, on peut constater la même chose. Et justement avec l'inverse, il y a un microclimat de la haie parce que justement il va faire plus frais au pied de la haie qu'au milieu de la parcelle. Et avec les gelées, ça va être pareil en fait. La haie, elle va installer un microclimat sur plusieurs mètres, ce qui va permettre de ne pas avoir des températures hyper froides et d'avoir l'impact des gelées sur les cultures.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
En rendez-vous, actuellement, moi, au sein de mon job, on est en train de recruter un peu des agriculteurs qui sont intéressés pour planter de la haie et de l'agroforesterie. C'est de pouvoir échanger avec eux un petit peu, de savoir si vous êtes intéressés, vous pouvez participer au programme qu'on a au sein d'Earthswarm pour planter de la haie, de l'agroforesterie. Donc on va les accompagner de A à Z. Donc là, c'est la période où on rencontre les agriculteurs justement pour comprendre pourquoi vous voulez mettre de la haie, des arbres et où vous voulez en mettre. Je suis présente dans tous les Hauts-de-France. Donc si vous voyez une personne avec une veste Earthswarm dans les champs, vous pouvez vous arrêter et venir me parler, ce sera avec plaisir. Du coup, le site internet, c'est Earthswarm, donc EARTHWORM. N'hésitez pas à aller sur le site, vous allez voir, au sein de l'ONG, du coup c'est une ONG internationale, donc on a plein de projets dans tout le monde, on a différents bureaux et le site est plutôt bien fait. Donc vous pourrez trouver plein d'informations sur ce qu'on fait, sur quelles matières premières on travaille. On travaille sur le cacao, le café, on travaille aussi sur les droits humains. On travaille vraiment sur l'agriculture de manière générale, l'agriculture régénératrice, sur différents produits. Mais il y a aussi l'humain qui rentre en compte dans l'émission. Éclatez-vous avec les arbres. Les sols sont fascinants. Vous prenez une tige, vous la replantez dans la terre, ça repart. Essayez, testez, n'ayez pas peur. Vous riez de moi parce que je suis différente, mais moi je ris de vous parce que vous êtes tous les mêmes. Et ça, c'est hyper important, soyez vous-même.
Voici que cet épisode aux côtés d'une transformatrice des paysages érodés prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle, fraîchement cueillie. Les landes palissandres, mais les troncs.